je m'appelle Ida, j'ai 8 ans et demi et je vais vous faire un exposé sur Maria Montessori. Savez-vous qui est Maria Montessori, cette femme qui a inventé la pédagogie Montessori, c'est-à-dire la méthode qui nous permet d'apprendre à l'école?
Maria Montessori,
biographie,
l'insubordonnée de l'éducation.
Née en 1870 à Chiavale, au cœur de l'Italie, Maria Montessori se passionne d'abord très jeune pour les mathématiques.
Une grande traversée de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Des études d'ingénieur réservées aux garçons contre l'avis de son père. Son adolescence.
14 août 1940. Votre Excellence, je me permets de vous faire une demande spéciale que j'espère que vous pourrez, par votre bonne volonté, m'accorder. Comme vous le savez déjà, je suis venue en Inde uniquement pour un travail éducatif, à l'invitation du docteur Arun Dale. Tout mon travail étant de caractère universel et entièrement consacré au bien-être des enfants. Maintenant, en raison de ma nationalité italienne, mon fils et moi sommes séparés pour ce travail. Le 31 août, c'est mon 70e anniversaire et j'ai demandé au commandant du camp d'Amnédagar de me permettre de rendre visite à mon fils, M. Mario Montessori. Je sais que mes élèves se souviendront de mon anniversaire dans toute l'Inde, mais la seule reconnaissance que je désire est que je puisse être autorisée à voir mon fils. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur.
Dès 1939, Maria est invitée en Inde pour des conférences. Elle y reste durant 6 années. C'est la guerre en Europe. Elle est alors âgée de 69 ans. Elle forme des centaines d'éducateurs et d'éducatrices indiens à sa pédagogie. Elle a même rencontré le Mahatma Gandhi.
Cinquième épisode, un nouveau modèle pour l'enfance. Après l'Italie, l'Espagne et la Hollande, Maria Montessori part en Inde avec son fils Mario. L'absence de la doctoresse, qui devait durer 3 mois, deviendra un exil interminable pour ses 4 petits-enfants confiés à des proches aux Pays-Bas. L'armée nazie, déjà victorieuse en Pologne, s'apprête à fondre sur l'Europe occidentale. Petit à petit, les pays se ferment à sa méthode. L'enfant libre et pacifique de demain ne rivalise pas avec le soldat d'aujourd'hui. Quand la Société théosophique d'Inde lui propose d'organiser des formations pédagogiques en Asie, quitter l'Europe fait sens. Elle sait qu'elle n'y est plus en odeur de sainteté. L'Inde, le pays du poète Tagore et du guide spirituel Gandhi. Ses maîtres à penser sont aussi des admirateurs de l'italienne. Un village de huttes a été construit pour l'occasion. 300 étudiants venus de tout le pays se sont inscrits à la formation. Madame Montessori est accueillie avec la déférence due à une reine. L'Inde lui offre une reconnaissance qu'elle ne trouve plus en Europe. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ses grandes idées? Dans un système éducatif en constante évolution, sa pédagogie a-t-elle résisté à l'épreuve du temps? Nos efforts, dira la Montessori, doivent se consacrer à aider l'enfant à se perfectionner lui-même par le contact avec la réalité, car nous ne pouvons pas élever le niveau de l'humanité seulement par la culture.
Le jour de son anniversaire, qui est le 31 août, en 1940, Maria reçoit un télégramme du vice-roi des Indes, qui lui dit « Nous avons longtemps réfléchi à ce que nous pouvions vous offrir à l'occasion de votre 70e anniversaire. Nous avons pensé que le plus beau cadeau serait le retour de votre fils. »
Martine Gilsoul, chercheuse.
Ce qui est intéressant dans ce télégramme, c'est que c'est la première fois que, officiellement, on parle de Mario comme le fils de Maria Montessori. Parce que jusque-là, on n'en parlait pas trop. Elle, au tout début, dans les années 20, elle le présente comme son neveu. Et ici, c'est la première fois qu'officiellement, on reconnaît que c'est le fils de Maria Montessori. Et en fait, je pense que le vice-roi a été obligé de faire ce geste parce que les Montessoriens en Angleterre avaient fait beaucoup parlé de cette décision. Les Anglais ont été obligés de, et ils ont peut-être fait passer ça comme voilà, c'est un cadeau que nous vous faisons pour essayer de diminuer un peu le ridicule de la situation. Quand Mario et Maria sont de nouveau ensemble, ils devront toujours demander l'autorisation, bien entendu, pour pouvoir voyager en Inde. La condition, ce sera qu'ils ne peuvent pas s'approcher de certaines zones de combat. Et donc, ils vont pouvoir faire d'autres cours en Inde. Et ce qui est très beau, c'est que donc elle va pouvoir répondre à la promesse qu'elle avait faite à Gandhi en allant à Ahmedabad, où elle a aussi une famille de très grands amis qui sont les Charabalevi, qui était une famille de riches industriels textiles qui soutenaient Gandhi. Et donc parfois, la grosse limousine allait chercher Gandhi, et donc certains souriaient de voir la frêle silhouette de Gandhi qui sortait de cette énorme limousine de la famille Charabalevi. Et quand Gandhi a décidé d'accepter dans l'école de son ashram des enfants de familles intouchables, beaucoup d'Indiens ont cessé de le soutenir financièrement. Et les Charabalevi ont augmenté leur aide. Et donc c'est beau de voir qu'autour de Maria Montessori, c'est vrai qu'il y avait des gens aisés, mais qui avaient quand même une certaine... qui mettaient leurs biens au service de l'éducation. Et donc quand elle est à Ahmedabad, elle va faire deux cours en parallèle. Le matin, elle va former des enseignants qui vont travailler dans des écoles, je ne sais pas si on peut dire des écoles d'élite, mais des écoles privées, des écoles d'un certain niveau. Et l'après-midi, elle va au ashram de Gandhi pour travailler avec les enfants et pour former des enseignants qui travaillent dans cette école-là. Et donc, elle leur donne le même temps. Et pour elle, c'est très intéressant aussi de voir que les enfants, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur famille, ils réagissent de la même façon. Donc, elle touche vraiment quelque chose d'universel chez l'enfant.
La maîtresse ne peut pas seulement enseigner. Elle doit être capable de voir dans l'âme de ceux qui lui sont confiés. Elle doit former la personnalité, non seulement à travers ses enseignements, mais en parlant à leur âme, à leur esprit, à leur intelligence, avec compréhension, humilité et respect. Cette compréhension ne peut venir que d'un esprit hors norme, distingué, qui sait approfondir les problèmes de l'humanité.
En 1942, les Montessori déménagent, ils quittent Adyar. Ils se sont retirés à Kodaikanal, qui est une petite ville dans les collines, donc la température est beaucoup plus agréable. Et là, pour Maria Montessori, c'est un moment qui n'est pas facile qui commence, parce que au moins au siège de la Société théosophique, elle était entourée. Là, elle part avec Mario et avec une élève, Lina Wickramaratne, qui est sri-lankaise, qui a été tellement éblouie par ce qu'elle a écouté durant tout le cours de Maria Montessori qu'elle a télégraphié à ses parents pour dire « Je ne rentre pas, je suis Maria Montessori ». Et donc, elle part avec les Montessori. Et Maria Montessori dit ben, « Vu que tu as suivi le cours avec moi, vu qu'elle n'a rien à faire, elle continue à former cette jeune fille ». Il y a aussi là deux mamans qui ont des jeunes enfants, qui connaissaient Maria Montessori. Et donc, elle propose à Lina de mettre en pratique ce qu'elle a appris. Et donc, Lina commence par trois enfants qui sont plus jeunes que ceux que habituellement Maria Montessori accueillait dans ses écoles, parce qu'elle dit « je voudrais voir comment les enfants de 2 ans réagissent ». Et en fait, deux semaines après, ils vont être 15, et après quelques semaines, ils seront 60. Et en fait, Lina se retrouve à travailler dans des conditions, parce que c'est la guerre, il n'y a pas tout le matériel, il n'y a pas de papier. Et Maria Montessori va dire « vous avez le livre le plus beau, c'est celui de la nature ». Et ça va contribuer à, on va dire, concrétiser les intuitions de l'éducation cosmique qui étaient déjà là en germe dans les années 30. Parce que c'est toutes des expérimentations qui vont se faire. Et ce qui est, pour moi, un peu incompréhensible, parce que moi, à la place de Maria Montessori, dès que j'aurais été libre, je pense que je serais rentrée en Europe. Et en fait, non, eux, ils vont continuer, ils vont encore faire d'autres cours, et ils ne rentreront en Europe qu'en 1946.
Durant toutes ces années passées ici, nous avons travaillé intensément.
La découverte de l'enfant.
Nous avons complété la vision.
Pédagogie scientifique.
Je crois qu'elle s'est complètement déployée.
Mon approche expliquée aux parents.
L'interprétation de l'enfant, avec son esprit absorbant, prompt à s'adapter à son environnement, est vraiment belle.
Psychogéométrie. L'étude de la géométrie fondée sur la psychologie de l'enfant.
Et en fait, c'est là que ça va être une période très prolifique, parce qu'elle va...
L'enfant dans la famille.
Elle va réélaborer la 5e édition de son premier livre en italien. Elle va changer le titre.
L'enfant.
Parce qu'en italien,
les étapes de l'éducation.
C'est la scoperta del bambino, donc la découverte de l'enfant.
Le manuel pratique de la méthode Montessori.
Pour couronner notre travail, nous avons achevé de définir un plan d'étude avec l'éducation cosmique.
Éduquer le potentiel humain.
Le matériel qui auparavant était limité est maintenant très riche.
Éducation pour un monde nouveau.
Nous avons élaboré un matériel synthétique et scientifique pour le langage, les mathématiques, la biologie, la géographie, l'histoire, la préhistoire et la géologie.
L'enfant et l'avenir de l'homme.
Il permet d'abréger de 3 ans le programme des études secondaires.
L'éducation et la paix.
Nous voudrions maintenant écrire des livres. Mais la collaboration de nombreux techniciens est nécessaire pour toutes ces nouvelles présentations des matières scientifiques.
La formation de l'homme.
Voilà où nous en sommes.
De l'enfant à l'adolescent.
Et donc je pense que ça indique aussi un peu une pensée qui arrive à un certain aboutissement.
L'esprit absorbant de l'enfant.
Elle va écrire l'esprit absorbant de l'enfant pendant qu'elle est en Inde, éduquer le potentiel humain et éducation pour un monde nouveau. Donc on peut vraiment parler d'une période de la maturité.
Nous sommes restés 3 jours dans un hôtel à Karachi en attendant que des places soient libres. 3 jours de suite, la triste nouvelle, complet. Puis le moment tant attendu arriva enfin. L'avion de 30 places était occupé par des réfugiés des camps de concentration japonais. À Rome, je n'ai pas voulu descendre de l'avion pour manger parce que j'étais fatiguée et affaiblie. Et mes vêtements étaient froissés à cause du voyage. Je ne voulais pas que des inconnus viennent me saluer à ce moment-là.
Comment elle parvient à rentrer ? Par quel pays elle passe ?
Maria Montessori fait une escale à Rome, mais elle dit qu'elle est, enfin, le voyage l'a beaucoup fatiguée. Elle n'a pas voulu sortir de l'avion parce qu'elle était fatiguée et parce que ses vêtements étaient froissés. Et puis après, ils poursuivent leur voyage jusqu'en Hollande, où les attendent donc les enfants de Mario Montessori et la famille Pearson, qui s'est donc occupée pendant la guerre de ces enfants. Et c'est là, en fait, parce que Maria Montessori n'a pas de maison en Europe, et donc elle retourne en Hollande, parce que là, il y a la maison des Pearson qui les attend.
Après 7 ans d'exil.
Oui. Après 7 ans, donc hors de l'Europe, dans des conditions quand même très différentes, pas toujours confortables. Et en même temps, on voit que Maria Montessori, par certaines de ses remarques, n'est pas encore consciente de la réalité de la guerre sur le sol européen. Donc quand ils vont rentrer en Europe, ils vont comme ça présenter, lors du cours de Londres en 1946, un peu le fruit de leurs années indiennes. Et un des fruits, c'est donc ce programme pour l'école élémentaire. C'est la première fois que sur le sol européen, elle va vraiment partager, elle va diffuser le fruit de sa réflexion de ses années indiennes. Et les contenus du cours sont un peu le prototype de ce qui va être la formation des cours qui sont encore aujourd'hui proposés par l'AMI, l'Association Montessori Internationale, dont le siège est à Amsterdam. Après le cours de Londres, je pense qu'un désir de Maria Montessori était de pouvoir revenir vivre en Italie, le pays qu'elle avait quand même quitté depuis 1934. Donc il y a certains hommes politiques qui auraient voulu que soit votée une loi pour lui donner une pension, pour lui permettre de vivre en Italie, mais finalement ça ne va pas se concrétiser. Elle va quand même être accueillie avec tous les honneurs par le ministre de l'Éducation et ce qu'on appelait à l'époque la Costituente. Donc c'était les personnes qui avaient été choisies pour rédiger la Constitution d'Italie. Et donc une de leurs responsabilités, c'était aussi de faire repartir l'Opéra Nazionale Montessori et donc relancer un peu la diffusion des idées de Maria Montessori en Italie.
Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in Italia.
Archive, Luce, 13 mai 1947.
Mancavo dall'Italia fino al 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio
Elle dit a Mario, elle communique a Mario son envie d'aller revoir Chiara Valle, donc là où elle était née. Donc ce premier séjour, on n'en sait pas trop. Il y a aussi, je pense, une grande partie qui est vécue de manière privée, pour revoir ses familles, les lieux qui pour elle ont été importants. Elle est accueillie par le pape, qui lui accorde une audience privée. Et ça, c'est grâce à Madre Tincani, qui a fondé une université ici à Rome, où on étudie encore beaucoup la méthode Montessori. Et en fait, Madre Tinkani avait des missionnaires qui avaient des écoles en Inde, et donc certaines d'entre elles avaient suivi le cours de Maria Montessori en Inde. Et donc c'est sûrement elle qui a favorisé cette rencontre entre le pape et Maria Montessori. Donc Maria Montessori a encore des soutiens en Italie, mais c'est comme si l'Italie officiellement n'était pas prête. Donc elle retourne après en Hollande. Mario va se marier en secondes noces avec Ada Pearson en 1947, juste avant le second départ de Maria Montessori avec Mario en Inde. Parce que le succès indien n'est plus à démontrer et il y avait donc de belles opportunités qu'ils n'ont pas voulu refuser.
Déclaration de Maria Montessori, Inde, 1947. Il n'existe pas d'enfants bolcheviques, fascistes ou démocrates. Ils deviennent ce que les circonstances ou leur entourage font d'eux.
Quand Maria Montessori revient en 1949, donc il y aura un grand congrès international à Sanremo, en Ligure, dans le nord de l'Italie. Le congrès est intitulé « La formation de l'homme dans la reconstruction mondiale ». Beaucoup pensaient peut-être que la guerre était une chose finie, une chose qui était derrière nous. Et Maria Montessori montre qu'elle est très préoccupée par les guerres qui sont encore en germe. Donc ce sera vraiment la première fois qu'après la guerre, les Montessoriens du monde entier vont se réunir. Durant ce congrès, elle va faire des conférences magnifiques que moi je considère un peu comme son testament. Parce qu'on voit en fait qu'elle a sa pensée, grâce à l'expérience indienne, a vraiment pu arriver comme à un aboutissement.
Aujourd'hui, lorsqu'en dépit des terribles leçons des deux guerres mondiales, l'avenir s'annonce plus sombre que jamais, j'ai la certitude qu'outre l'économie et l'idéologie, il est un autre domaine à étudier. Celui de l'homme. Pas celui de l'homme adulte qui reste sourd à tout appel. Économiquement menacé, emporté dans un tourbillon d'idées contradictoires, il se jette tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est l'homme, au commencement de sa vie, qui doit mobiliser la science. L'enfant qui se construit en respectant les lois naturelles de son développement. C'est seulement ainsi que l'on peut espérer créer une meilleure structure sociale et une meilleure entente internationale.
J'ai un petit chat, ah 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 ah, il est enrhumé, je l'ai mis au lit,
École maternelle publique du 12e.
J'ai 27 élèves de 3 à 6 ans, j'ai un groupe de 11 petits cette année, j'ai 8 moyens et 8 grands. Et la vraie différence avec les classes plus classiques, on va dire, c'est que je garde mes élèves pendant 3 ans. Donc ça permet d'avoir un vrai temps long, qui permet de prendre son temps dans les apprentissages et en même temps d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire si on n'avait pas ce temps-là. Donc c'est à la fois prendre le temps quand on a besoin de temps et que là, c'est pas le moment. Et en même temps, avoir le temps d'aller aussi loin qu'on veut quand on sait le moment et qu'on se lance à fond.
5, 6, super. Ok. Binta,
vous êtes institutrice depuis combien d'années, Anne ?
Dans ma classe, j'y suis depuis 24 ans. À l'époque, à l'origine, c'était une classe de petite section où j'accueillais 28, voire 30 des fois élèves de petite section de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Et je l'ai fait pendant presque 16 ans. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus. J'ai eu du temps pour réfléchir parce que je me suis retrouvée à subir une opération. Ce que je supportais plus, c'était de me rendre compte que tous les ans, il y avait 3, des fois 2, 3, 4 enfants avec lesquels, en fin de petite section, je n'avais pas réussi à aller au bout des apprentissages, de ce que je voulais faire en petite section.
Et pourquoi vous n'aviez pas réussi ?
Mais parce que je n'avais pas le temps, en fait. Quand on est dans un fonctionnement traditionnel, on a le groupe classe en entier, on n'a pas de temps vraiment individualisé avec chaque enfant. Donc, on travaille pour le gros de la classe, les très forts, mais on ne peut pas faire grand-chose pour eux, proposer quelques activités. On étaye, mais pas tant que ça, finalement, par rapport à là où ils en sont. Et les enfants qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus individuelle, mais on ne peut pas non plus, parce qu'on a les 28 enfants et qu'on travaille en atelier et que ce n'est pas le fonctionnement. c'est pas adapté à du travail individualisé. Et ces enfants qui ont des besoins particuliers, que ce soit handicap, mais pas seulement, qui ont besoin de soutien, eh bien, ils ne l'ont pas dans une classe traditionnelle. En fait, on passe à côté de ces enfants-là. Moi, j'avais un sentiment d'abandon. Je ne dis pas qu'on les abandonne vraiment, mais moi, c'est ce que je ressentais. Et je trouve ça terrible. Et donc, ce changement de méthode permet l'aide à chacun. Parce que Maria Montessori, quand elle a mis en place sa pédagogie, elle l'a mis en place avec un travail de présentation individuel. Donc, ça veut dire que quand on présente un nouveau travail, une nouvelle activité, on le présente à l'enfant tout seul. Je ne dis pas qu'ils sont tout seuls tout le temps. Vous avez vu dans la classe, ils font beaucoup de travail en binôme, où ils sont deux. Ils ont le droit d'être deux pour beaucoup, beaucoup d'activités. Mais quand moi, la maîtresse, je présente un travail à un enfant, c'est que pour lui. C'est un petit cadeau, en fait. C'est un petit bonheur, un petit plaisir ensemble. Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, je présente l'activité qui va bien au moment où ça va bien. Alors, je ne dis pas que je ne me trompe pas, des fois, hein, mais dans l'absolu, il faut vraiment présenter le bon travail au bon moment. Donc, ce qu'on appelle en pédagogie la zone proximale de développement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si on veut que l'enfant progresse, il ne faut pas que ce soit trop difficile, trop loin de ce qu'il sait faire. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop facile parce qu'il n'y a aucune surprise, aucun plaisir. Donc, cette zone-là, moi, je peux la connaître parce que je fais du travail individualisé. Et c'est vraiment fondamental. En fait, c'est ce qui change tout.
Sur quoi la pédagogie se fonde ? Sur trois piliers, Charlotte Poussin ?
Tout à fait. Alors, c'est trois éléments essentiels. C'est l'attitude de l'adulte, l'attitude respectueuse de l'enfant, de son rythme, de sa dignité, de ses capacités, de son humeur du jour. Donc la prise en compte des besoins fondamentaux de cet enfant, qu'on ne met pas dans une case, qu'on ne définit pas tel quel pour toujours, voilà, et qu'on cherche vraiment à accompagner, à comprendre, en se mettant à sa place, donc avec beaucoup d'empathie. Donc cette attitude de respect profond et de volonté en même temps de tirer cet enfant, on a un projet pour lui, on veut lui transmettre. Alors c'est pas sous forme de cours qu'on lui transmet, mais c'est sous forme de mise à disposition de cet environnement. Donc il y a cette attitude fondamentale qui est celle par laquelle je commence, parce que s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de mettre le reste en place. Ensuite il y a ces fameux environnements qui est vaste, lumineux, qui contient des plantes, qui contient des éléments vivants, des animaux. Le troisième élément, c'est le matériel. Le matériel qui est disposé et qui est aussi à disposition. C'est-à-dire que quand je dis disposé, c'est-à-dire qu'il est agencé dans des aires spécifiques, l'aire de mathématiques, l'aire de géographie, l'aire de sciences, l'aire de langage. Donc il est ordonné, ce qui permet à l'enfant aussi d'ordonner sa perception de tous ces éléments. Et il est ordonné dans la mesure où il est attrayant, attirant, séduisant, et que c'est comme c'est lui qui est l'enseignant, en fait. C'est ce matériel qui apprend à l'enfant. Ce matériel se doit d'être impeccable. Et puis, il faut aussi qu'il soit présenté dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire que si l'environnement était formidable, que tout le matériel était là, mais qu'il n'y avait pas un passeur, un adulte qui sait, parce qu'il observe l'enfant, qui sait que c'est le bon moment pour cet enfant de voir ce matériel, le matériel ne pourrait pas non plus remplir toute sa mission. Donc c'est vraiment trois éléments fondamentaux. Mais s'il fallait en garder qu'un, ce serait la posture. L'enseignant. Avant, les classes Montessori étaient placées sur une estrade en bois. Et les enfants étaient placés, je dis placés parce qu'ils étaient placés comme des objets, sur des bancs en bois qui étaient fixés à des bureaux en bois, le tout très lourd et fixé au sol. Donc ça symbolise bien cette rigidité de l'ambiance dans une classe avec un adulte qui est supérieur, qui domine, et des enfants qui sont assis, passifs et immobiles. C'est ce qu'elle a métamorphosé. En premier lieu, lorsqu'elle a eu l'occasion d'avoir une classe où elle puisse présenter le matériel Montessori à des enfants, la première chose qu'elle a faite, c'est de concevoir des meubles légers que les enfants pouvaient déplacer selon leur volonté. Ils pouvaient s'asseoir dedans ou à l'extérieur de la classe parce qu'il y avait un patio. Et puis, la possibilité aussi de travailler au sol, parce que les enfants ont très souvent besoin d'être à même le sol pour se concentrer. Donc, elle mettait à leur disposition des petits tapis. Donc, les enfants avaient une grande liberté de mouvement. Et l'adulte n'était plus sur une estrade, mais descendait de son piédestal. Et ça, symboliquement, c'est très important.
Eh bien non. Le calcul n'est pas bon. Comment tu vas faire?
Je vais le refaire.
Oh,
oh non.
C'est bien. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Hein.
Moi, je sais.
École Montessori Internationale de Nice.
En réessayant.
Ça, c'était très drôle. Moi, quand j'étais en classe et que ma directrice venait me voir, elle me cherchait souvent.
Nadia Hamidi,
parce qu'elle me voyait pas.
Présidente de l'Association Montessori de France et directrice de l'École Montessori Internationale de Nice.
Et parce que j'étais souvent à la hauteur des enfants, ou j'étais en observation. Et donc, en fait, l'adulte doit être là, mais c'est le travail en Montessori, c'est un accompagnement de l'enfant. C'est pas l'adulte qui est supérieur à l'enfant et qui va lui inculquer un savoir. Le savoir va se construire et s'auto-construire. Elle parle d'auto-éducation, Maria Montessori. C'est vraiment, on doit être humble et on doit l'accompagner tout en étant presque à son niveau, en fait. Bien sûr qu'on sait des choses et qu'on va l'accompagner dans son développement, mais il est aussi sachant et c'est vraiment un travail de collaboration et d'accompagnement de son développement humain. On est au même niveau que l'enfant. Alors ça, c'est pour dans notre société aujourd'hui, c'est compliqué à dire et à entendre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas un sous-être, c'est un être en devenir, certes, mais il n'est pas inférieur à l'adulte. Il a ce qu'il a en lui, c'est même plus fort que ça. Il porte en lui toute l'humanité.
On a la grande chance à l'éducation nationale d'avoir une liberté pédagogique qui nous permet, à partir du moment où on reste dans les instructions officielles et que les compétences de fin de cycle sont acquises en fin de grande section, on a le droit de présenter finalement la pédagogie à laquelle on adhère le plus. La pédagogie Montessori, pour devenir éducateur Montessori, c'est une formation qui coûte 15 000 euros et il faut s'arrêter pendant un an de travailler. Donc moi, c'était pas possible. Et donc, du coup, je me suis formée en ligne avec Céline Alvarez. Donc j'ai repris toutes ces vidéos que j'ai notées dans mon cahier. Enfin, je me suis fait un cahier journal avec toutes les vidéos qu'elle proposait, que ce soit en vie sensorielle, en mathématiques, en langage, en vie pratique. Et je me suis fait mes fiches de préparation exactement donc comme dans le fonctionnement traditionnel en pédagogie classique. Et j'ai commencé à trouver du matériel parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut trouver, soit en recyclerie ou des choses comme ça. Et j'ai acheté la base du sensoriel et tout le reste j'ai fait. Parce qu'il y a aussi un autre problème dans l'éducation nationale, enfin qui n'est pas un problème en soi, mais c'est l'argent. Comment acheter du matériel quand on n'a pas accès à ces fournisseurs-là? Alors, je parle d'il y a 8 ans. Maintenant, ils sont dans les catalogues de la mairie de Paris. Et donc, on peut acheter une partie du matériel Montessori avec le budget. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, il fallait soit que je fabrique, soit que j'achète avec mes sous. Et au départ, quand j'ai commencé, j'étais en mixte. Donc, j'avais la moitié de ma classe qui était en jeu traditionnel d'imitation. Donc, le coin garage, le coin poupée, tout ça. Et j'avais l'autre moitié de classe avec moi pour faire toutes les présentations avec mon ASEM de l'époque. Et moi, j'ai fait que courir à partir de ce jour-là. Courir, pas dans la classe, mais au niveau intellectuel, parce que je me suis rendu compte à quel point les enfants étaient demandeurs, à quel point ça marchait, et à quel point il fallait que je fournisse, en fait. Parce qu'ils en étaient déjà là, qu'ils voulaient la leçon d'après, et la leçon d'après, et la leçon d'après. Par exemple, en mathématiques, parce que c'est le plus magique, les mathématiques, je trouve, avec la pédagogie de Maria Montessori. On commence, si vous regardez la première étagère, tout est toujours rangé dans l'ordre de gauche à droite, le sens de la lecture est de haut en bas. Et la fin de la première étagère correspond aux attendus de fin de cycle de grande section. Donc il faut savoir que la deuxième, la troisième et la quatrième étagère, c'est du plus par rapport à l'éducation nationale.
Tout le matériel Montessori, là vraiment absolument tout jusqu'à la terminale, sont des abstractions matérialisées.
Armelle Perron, présidente de l'association publique Montessori et enseignante dans les écoles publiques.
Et typiquement, donc là j'ai apporté... le matériel du système décimal, donc dans lequel il y a des petites perles dorées. Et donc là, il y a une petite perle et on dit ça, oui, cette perle, on appelle ça unité. Moi, je m'appelle Armelle, elle s'appelle unité. Et puis après, il y a une petite barrette de perles, donc c'est 10 perles qui sont montées sur un fil de fer. Et là, on les compte, on dit, tu vois, c'est une petite barrette avec 10 unités dessus. On compte, voilà. Ils savent déjà compter jusqu'à 10 à ce moment-là. C'est le seul prérequis. Ils ont compris la correspondance des quantités du nom de 1 à 10. Et donc là, tu vois, il y en a 10. Et quand il y en a 10 et qu'ils sont tous ensemble, on fait comme un petit paquet, une barrette. Et ça s'appelle dizaine. Et ensuite, il y a une plaque avec 10 barrettes de dizaines qui sont accrochées ensemble. Pareil, là, sensoriellement, on peut compter toutes les perles, on les touche, on peut les faire tourner, c'est des vraies perles, elles ont juste été montées sur des fils de fer. Et on compte, et il y en a 100. Et là, on annonce le nom. Bah, tu vois, quand on a un paquet de 100 comme ça, ça s'appelle une centaine. Regarde, ça, c'est 100 comme ça. Et puis, enfin, ça, c'est le truc incroyable, c'est 10 centaines qui sont accrochées ensemble en cube. Du coup, ça te donne un cube. Et là, on peut voir toutes les perles à travers. Elles sont vraiment là. Et là, ça s'appelle un millier, parce qu'il y en a 1000. Et après, souvent, je leur demande de prendre unité dans une main et millier dans un autre. Et il peut sensoriellement comprendre la différence par le poids entre une unité et un millier. Donc lui, maintenant, quand on va lui parler de 1 ou de 1000, il va avoir cette sensation corporelle. L'intérêt de ce matériel, c'est qu'il n'y a pas de confusion possible. C'est pas, par exemple, parce que souvent c'est ça, des cubes colorés, c'est pas des poupées, des petits bonhommes, des choses. Non, il n'y a rien qui peut lui faire penser à autre chose qu'à la quantité. Il faut que toutes les perles soient pareilles. Parce que la différence entre une perle et deux perles, c'est la quantité. Et dans tout le matériel Montessori, c'est ça. Elle a fait ça de façon très scientifique. C'est-à-dire que ce matériel-là, il y en a eu des dizaines d'autres avant qu'elle se dise, celui-là, il marche pour tous les enfants à chaque fois, tout le temps. Donc, du coup, celui-là, je le garde. Et puis, il y avait d'autres matériels qu'elle a laissé tomber. C'est pour ça qu'on parle de méthode scientifique. C'est-à-dire qu'elle a étudié et élagué tout ce qui ne fonctionnait pas.
Tous les enfants, en fin de grande section, quel que soit leur niveau social et leur milieu d'origine, tout le monde arrive au-delà des compétences de base de grande section. Tous les enfants de ma classe de grande section sont rentrés dans la lecture, dans l'écriture et dans les mathématiques. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils apprennent, lors des 3 années de maternelle, des choses qu'ils n'auraient pas apprises en CP parce que c'est passé. Il faut savoir que au niveau neurosciences, le cerveau d'un enfant de 4 ans est un cerveau de génie. Et parce qu'il n'y a pas eu l'élagage synaptique. Donc, c'est juste que le cerveau, à cet âge-là, est ultra performant. Et petit à petit, avec les années, sur 1 ou 2 ans, il sélectionne, il élague. Donc, il enlève toutes les connexions qui sont plus utiles, qui ne servent pas. Donc, nous, en maternelle, on est à un âge où ils peuvent apprendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ce sont des éponges. Tout ce qu'on fait, en fait, ils le captent, ils l'absorbent. Et c'est appris pour toujours. Donc c'est d'autant plus bête de ne pas se servir de cette force-là. Et quand ils arrivent en CP, les mêmes élèves, ils ont déjà fait l'élagage synaptique. Donc pour eux, bien sûr qu'ils vont apprendre à lire. Hein. Bien sûr, ils peuvent apprendre à lire. Mais ça va leur prendre énormément de temps, énormément d'énergie, avec énormément de répétitions. Donc il y a quand même des enfants qui ne vont pas apprendre à lire. On en a quand même 30% qui sortent de CM2 sans les compétences de base en lecture, écriture et mathématiques. Et ça, c'est juste un scandale aussi. Enfin, voilà, c'est pour eux qu'il faut se battre.
Alors, fois 8, il faut 4, ça fait 32.
Elle était convaincue que l'enfant sait beaucoup de choses, que l'enfant sait apprendre, que l'enfant sait chercher. Il suffit d'observer un enfant qui met tout à la bouche, qui explore, qui marche à quatre pattes, il va partout. L'enfant est un explorateur né. Et donc, si on met dans son environnement des éléments qui lui permettent d'apprendre de façon structurée, il apprend paisiblement et facilement, donc sans avoir peur de tromper, sans avoir peur de rater, sans avoir envie d'être félicité parce qu'il a réussi, et donc d'être triste le jour où il n'est pas félicité. C'est vraiment cette absence de dépendance de la punition et de la récompense qui le rend libre. C'est ça, cette sérénité, c'est-à-dire qu'il y a une spontanéité dans son élan d'apprentissage et dans son élan aussi, parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage, mais il y a aussi l'apprentissage du savoir-être. Donc dans ses relations avec les autres, il est aussi beaucoup plus serein parce qu'il n'est pas en permanence frustré parce qu'on lui dit de ne pas prendre ce qu'il s'apprêtait à prendre, de ne pas faire ce qu'il s'apprêtait à faire ou de ne pas dire ce qu'il s'apprêtait à dire. Donc c'est beaucoup plus fluide lorsqu'il y a cette acceptation de l'enfant avec ses élans. C'est plus fluide aussi pour l'adulte. Et l'enfant, lui, peut grandir paisiblement à sa manière, en devenant qui il est. Cette fameuse phrase « deviens qui tu es », je pense que ça pourrait aussi être un des slogans de l'approche Montessori. C'est « découvre-toi, sache qui tu es et ce que tu veux devenir et trouve ta mission ». Elle pensait vraiment que chaque personne avait une sorte de vocation, une mission à remplir au service d'un ensemble qui nous dépasse.
qui est intéressant chez Maria Montessori, c'est la figure qu'elle représente. J'entends le mot de figure presque au sens tutélaire. Elle incarne un espèce de combat pour l'enfant.
Philippe Mérieux, chercheur et essayiste.
Pour la dignité de l'enfance. Maintenant, quand la figure se fige en méthode, effectivement, elle crée du dissensus. Elle est contestée parce qu'elle construit une méthode et que cette méthode, comme toute méthode, va créer un clivage entre ceux qui l'adoptent et ceux qui la rejettent, cette méthode. Alors, ceux qui l'adoptent pour de très bonnes raisons, ceux qui l'adoptent pour de moins bonnes raisons, parce que la méthode, c'est la sécurité par rapport à une aventure pédagogique qui est parfois un peu imprévisible. Hein. Donc, dans ce champ de l'éducation, on sait bien l'attraction, l'attractivité que peut avoir une méthode qui apparaît claire avec des outils qui sont clairement identifiés, qui proposent des progressions extrêmement précises. Tout ça donne le sentiment que cette aventure éducative peut être administrée en quelque sorte. Et dès lors qu'on administre l'aventure éducative en faisant une méthode, et une méthode un peu rigide, évidemment, il y a ceux qui y adhèrent et ceux qui considèrent soit que c'est une autre méthode qui doit l'emporter, soit qu'il faut être plutôt dans la démarche que dans la méthode.
Dans les académies, dès qu'on prononce le mot Montessori, on est jeté dehors parce que c'est le dogme, parce que c'est les fascistes, parce que c'est les riches, parce que c'est je sais pas quoi. Il a jamais été prouvé que ça a fonctionné. Enfin, tous les préjugés qui ressortent derrière. Il y a une peur de cette pédagogie qui est impressionnante, mais qui est complètement irraisonnable. Je sais pas comment dire, mais c'est. Enfin, j'arrive pas à savoir. Il y a un truc politique là-dessus.
Pourquoi la démarche est très belle? Parce que c'est une démarche qui part de l'observation de l'enfant, parce que c'est une démarche qui part du pari que tous les enfants peuvent accéder à l'intelligence, parce que c'est une démarche qui fait de l'enfant le cœur de ses apprentissages, qui met l'enfant au cœur de l'école
et de l'humanité.
Et cette démarche-là est très belle, elle me passionne, et je trouve que à ce titre, Maria Montessori s'inscrit parfaitement dans tout ce mouvement de l'éducation nouvelle. À côté de ça, ce qui m'agace un peu, c'est sa méthode que je trouve parfois de bric et de broc, et fondée sur une conception de l'enfant et de son évolution que je trouve discutable. Il me semble que Maria Montessori part d'un présupposé très beau, qui est que l'enfant, à travers ses manipulations, dès lors qu'on se met à son écoute et qu'on n'est pas dans une posture qui est une posture de dressage, peut entrer dans une relation au monde qui le fera grandir. Mais alors, on arrive après vers quelque chose d'un peu curieux, cette idée de superposition entre les périodes sensibles, les outils et les connaissances, qui me semble très discutable. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, personne ne pourrait vraiment défendre sur le plan de la psychologie les périodes sensibles de Maria Montessori. Il y a dans l'idée de période sensible une sorte d'attentisme dans certains textes de Maria Montessori. Il faut attendre la période sensible pour proposer quelque chose qui soit en accord avec cette période sensible. Aujourd'hui, on dirait pas les choses de cette façon. D'abord parce que depuis les travaux de Vygotsky, par exemple, on sait que l'apprentissage influence le développement et qu'on n'est pas simplement dans une relation. L'enfant se développe en quelque sorte naturellement selon une logique endogène, interne, et puis on vient greffer les apprentissages en fonction de ce développement, à chacun des stades de ce développement. Ils existent, mais ils ne sont pas aussi rigides et aussi figés que le pensait d'ailleurs Piaget, ou que a pu le penser, mais d'une autre manière, Maria Montessori. Il y a quelque chose qui est choquant un peu dans certaines conceptions de ces périodes sensibles ou de ces stades, qui est la réaction pédagogique de certains disant pour lui proposer ça, faut attendre qu'il ait atteint le bon stade. Or, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que précisément, pour qu'il atteigne le stade, il faut peut-être lui proposer quelque chose. Et il faut pas être dans cette position exclusivement d'accompagnement d'une évolution qui se fait par elle-même. Il faut être plus dans l'interaction entre ce qui est proposé et ce qui se fait à l'intérieur. Moi, je comprends l'idée de Maria Montessori d'être dans cette situation d'écoute profonde de l'intériorité de l'enfant Et je pense que le mot intériorité est important. Cette vision de l'intériorité, de la spiritualité, renvoie quand même à une idée que je trouve bien discutable, qui est « deviens ce que tu es ». La personne préexisterait en quelque sorte à son éducation. Je pense qu'il y a là des choses qui se discutent. Je pense qu'on peut discuter aussi, et il faut discuter, sa conception des outils pédagogiques. Il y a chez Maria Montessori cette idée de mettre l'enfant en relation avec des objets entièrement construits par l'éducateur et construits sur une représentation de l'intelligence qui est quand même une représentation de l'intelligence, on va dire, très logico-mathématique. Alors, Célestin Freinet, lui, proposait de mettre l'enfant en relation directe avec des objets beaucoup plus réels. On travaille dans la nature, on va faire des barrages sur les torrents, on va faire un herbier, on fait un journal. Et il considérait que Maria Montessori isolait en quelque sorte l'enfant du monde. On fait des petits élèves habiles et on ne fait pas des gens capables d'affronter, de rencontrer le réel dans sa complexité. Alors peut-être que Freinet est excessif dans cette affaire. D'ailleurs, lui-même a évolué, puisqu'au début de sa vie, il est très louangeux pour Maria Montessori. C'est ensuite, quand sa méthode commence à prendre le pied sur sa démarche, justement, qu'il deviendra un peu plus sévère et un peu plus critique.
Je pense que Maria Montessori serait la première à dire que son enseignement, ok, il était très cadré, c'est sûr, mais c'était pas figé. Elle-même observait et changeait des choses. Et pareil, moi j'ai du matériel que j'ai rajouté dans la classe qui n'est pas dans le fonctionnement pur traditionnel Montessori, mais parce que je suis certaine et persuadée que si Maria Montessori existait encore aujourd'hui, elle l'aurait rajouté. Parce que c'est complémentaire, que ça apporte, que c'est dans le même cadre, c'est-à-dire que c'est organisé, c'est ordonné, c'est rangé, c'est beau. Ça donne envie, ça aide à la construction de l'ordre dans la tête. Bah ok, banco, on y va.
On parlait de ces étapes de développement-là. 0-6 ans, c'est l'âge de « apprends-moi à être moi-même, à prendre conscience du fait que je suis moi-même ». 3-6 ans, c'est « apprends-moi à faire par moi-même, apprends-moi à savoir faire sans avoir besoin de toi, adulte ». Donc ça, c'est l'indépendance fonctionnelle. Indépendance psychique, ensuite indépendance fonctionnelle. Et 6-12 ans, on rentre dans cette période morale où là, l'idée, c'est « apprends-moi à penser par moi-même ». Et ça, ça fait très peur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui font confiance au système Montessori jusqu'à 6 ans, parce que ça n'engage pas trop. Mais se dire « mon enfant va penser, les enfants de ma nation vont penser par eux-mêmes et être libres de penser et de s'opposer à moi, donc, un jour ». Ben, ça n'est pas facile pour tout le monde. Ça demande vraiment une expression de révolution sociétale. Et puis ensuite, 18-24 ans, c'est « apprends-moi à penser au service des autres », qui est le but ultime. J'ai appris à être indépendant et maintenant, je mets mon indépendance au service de tous. Donc, le but ultime de l'approche Montessori n'est pas du tout individualiste, mais totalement altruiste. Pour une amélioration de la société, une amélioration des relations entre les hommes et entre les hommes et leur milieu. Donc c'est vraiment une dimension à très long terme, mais qui suppose de respecter des étapes où on permet à l'enfant de se respecter lui-même et de respecter ses propres besoins. Donc il y a un certain individualisme au service du collectif. Et donc l'approche Montessori, c'est tous les auto-évaluation, auto-éducation, auto-apprentissage, au service des du collectif, de la collaboration, de la coopération.
Une école où la liberté est un point de départ, pour moi, c'est une école des inégalités. Ce que disent un certain nombre de pédagogues montessoriens, mais que diraient aussi bien des pédagogues freinés d'ailleurs, que diraient aussi bien des tas de gens partisans d'une pédagogie de l'autonomie ou des pédagogues de la pédagogie institutionnelle, peu importe, ou des corps de chacun, c'est... Nous sommes dangereux et on ne veut pas de nous parce que l'école est un système essentiellement répressif, fondé sur l'obéissance à la norme, et que nous formons des individus qui sont des individus qui vont demander à penser par eux-mêmes précisément. Oui, moi j'entends cette objection-là. Je crois qu'elle peut être valable, elle a pu être vraie à tel et tel moment. Mais je ne suis pas complètement convaincu que ça légitime pour autant une pédagogie dogmatique. Je pense que ça légitime plutôt une démarche pédagogique dans laquelle la liberté est une finalité et pas un point de départ. Moi, j'ai fait mes premiers travaux autour de ces questions-là. J'étais un jeune instituteur partisan des méthodes actives et du collectif. Et donc, je mettais mes élèves à travailler par petits groupes. On faisait des pièces de théâtre, des journaux, des maquettes, tout un tas de trucs. C'était très chouette, c'était super. Sauf que je me suis aperçu très vite que quand on mettait 5 enfants à travailler ensemble, si vous leur demandez de faire un panneau, c'est celui qui sait écrire qui écrit, plutôt celle qui sait écrire qui écrit, parce qu'en général, c'est les filles qui savent écrire. Celui qui a des images chez lui les apporte, celui qui sait dessiner dessine, et celui qui sait rien faire, il fait rien, et heureusement qu'il fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Et s'il était raté, eh bien, la maîtresse ou le professeur serait pas content. Donc, si on laisse s'installer cette division du travail dans les classes, on aura très vite des classes composées de concepteurs, d'exécutants, de chômeurs et de gêneurs. Et très vite, moi j'ai pu faire des études là-dessus, d'ailleurs très concrètement, la petite fille qui n'ose pas en maternelle mettre sa gommette et qui va se mettre de côté quand on fait un dessin collectif, ce sera la même qui n'osera pas parler en sixième et ce sera la même qui sera virée en fin de troisième parce qu'elle n'aura pas réussi à imposer son point de vue en matière d'orientation. Donc une certaine forme de liberté, c'est la liberté des dominants d'exercer leur domination et des dominés de rester dominés. Et le rôle de l'école, c'est pas de favoriser cette liberté-là, c'est de favoriser la possibilité pour ceux qui sont en difficulté d'accéder à des savoirs et des savoir-faire qui leur permettent de sortir des situations de domination. Et que la petite fille qui, en maternelle, est toujours en retrait, qui n'ose pas participer à la fresque ou au dessin collectif, eh bien, on la prenne par la main et qu'on l'aide à travers toute une série de dispositifs à s'impliquer et à refuser l'hégémonie du gars qui va lui imposer toujours de se taire parce qu'il est plus fort, parce qu'il parle plus fort, parce qu'il cogne plus fort. Voilà. Donc moi, je crois que l'école a un rôle fondamental dans l'apprentissage de la liberté, mais que l'apprentissage de la liberté ne consiste pas à dire « faites ce que vous voulez ». Le « faites ce que vous voulez », ce n'est pas la liberté. Le « faites ce que vous voulez », c'est, dans l'immense majorité des cas, la reproduction des phénomènes de domination.
Christian et Yann. Yann, papa.
Yann, d'accord. Alexandre, Christian et Yann.
Extrait du film « Le maître et l'enfant » d'Alexandre Moreau.
Les divisions.
Et les divisions, on ne peut pas en donner plus à quelqu'un ?
Non.
Moi, ce que j'ai pu voir pendant la formation...
Alexandre Moreau, réalisateur.
On a un projet pédagogique qui est, effectivement, on suit les lois naturelles du développement de l'enfant, on écoute ses besoins, on essaye d'y répondre avec un environnement qui répond à ses besoins et une posture d'éducateur adéquate, mais voilà, ça ne suffit pas. Hélas, c'est une vision un peu théorique, mais qui n'est pas suffisante, à mon avis, parce que les enfants... Eh bien, ils arrivent à l'école avec des soucis, des préoccupations. Ils ont des cultures, en fait, très différentes, justement, dans les zones d'éducation prioritaire. On se retrouve dans une micro-société comme ça, très riche, avec une grande variété culturelle. Eh bien, il y a des enfants qui parlent très peu, parce que c'est leur culture. Des enfants qui montrent très peu leurs émotions, parce que aussi c'est leur façon d'être. Des enfants très adroits et très maladroits, selon effectivement ce qu'ils vivent à la maison. Donc il y a tout ça, et leur dire, bah voilà, je vais essayer d'être attentif à tous les besoins des 25 enfants qu'il y a dans ma classe et répondre à leurs besoins, c'est très compliqué. Donc en fait, l'éducateur, et moi j'ai fait la formation Montessori pour bien comprendre ce projet pédagogique, et donc j'ai pu faire des stages et j'ai bien constaté que une des premières choses que j'ai eu envie de faire, c'était de montrer moi aussi mon savoir-faire. On peut aller très vite dans une espèce de routine, une mécanique en fait comme ça didactique, et puis les enfants ne réagissent pas. En fait, elle disait qu'une présentation réussie pour elle, c'était quand un enfant était capable de le refaire et a envie de le répéter, de le refaire souvent et puis même de le transmettre. Et donc, voilà, on constate qu'effectivement, les enfants, souvent, on leur montre quelque chose et puis ils disent bof. Et des fois même, ils n'ont rien envie de faire. Parce que justement, à la maison, qu'est-ce qu'ils vivent ? Effectivement, quand un enfant, comme j'ai pu le voir, moi, en réseau d'éducation prioritaire, des enfants qui dorment dans la rue, qui ont faim, qui sont gavés d'écran, enfin, il y a des multitudes de cas, les enfants, ils réagissent pas à ces propositions. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'énergie, ils sont hébétés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la pédagogie Montessori, et même du temps de Mme Montessori, j'ai l'impression que se dire simplement, eh bien, je réponds à ses besoins à travers, quelque part, un environnement préparé et puis une posture d'adulte, eh bien, ce n'est pas suffisant.
Je reste persuadée, et c'est la grande force de ce changement, que si on veut changer la société, c'est là, maintenant, tout de suite, et c'est à la maternelle que ça se passe. Et je sais que les enfants qui sortent de ma classe, comme toutes les classes de grande section de l'école, se retrouvent en fonctionnement traditionnel en élémentaire, et pourquoi pas, enfin, je veux dire, chacun fait comme il le sent, mais ce qui leur manque le plus, des retours que j'ai une fois qu'ils ont fait leur entre-CP, c'est de pouvoir s'aider. Et moi, pour moi, ça, c'est fort. C'est-à-dire que, OK, je suis fort en lecture, ben, je peux t'aider à apprendre les sons que tu connais pas, et puis toi, tu vas m'aider en maths. Vous voyez, l'entraide. L'entraide dans la société, c'est quand même ce qui nous manque le... Enfin, moi, ce que je vois de moins en moins. On est plus un peu en train tous de s'écraser les uns les autres, et c'est moi d'abord très égocentré, puis les écrans n'arrangent rien non plus. Et clairement, le fait que ce qui manque le plus aux enfants qui sortent de ma classe... Après de nombreux retours des parents, hein, je dis vraiment pas ça juste pour un ou deux enfants, c'est le fait de ne pas pouvoir s'aider, mais c'est quand même qu'il y a quelque chose de construit. Et moi, je reste persuadée qu'au fond de leur cœur, même s'ils ont un autre type de scolarité derrière, c'est construit. C'est pas possible qu'au bout de 3 ans, il n'y ait pas une trace de ça. Je pars du principe qu'on ne peut pas changer le monde en un claquement de doigts. Mais ça commence ici, ça commence à maternelle, et avec notre association, tous là, les enseignants, quand on se retrouve, on est persuadés de ça. C'est-à-dire que si on change nous, ça va changer le devenir de tous ces petits-enfants-là.
Est-ce que tu veux que je te trouve une super belle place où on travaille tous les deux un petit peu? Tu veux travailler un petit peu avec moi?
Non credo che Montessori abbia lasciato un unico messaggio per noi oggi.
Erika Moretti, professeur agrégé.
Je ne pense pas que Montessori ait laissé un seul et unique message à notre intention aujourd'hui. Il y a des phrases qui sont cependant pour moi très importantes, qu'on doit répéter à chaque enseignant et à chaque parent. Une de ces phrases est « L'enfant est le père de l'homme ».
L'enfant est le père de l'homme. L'homme vient en effet de l'enfant. Et seul l'enfant peut mener ce long travail à terme.
Quand je pense à cette phrase en tant que mère, en tant qu'enseignante, en tant qu'historienne, je reste bouche bée. Je suis bouleversée de me rendre compte qu'aujourd'hui encore, nous ne sommes pas capables d'accepter combien nous pouvons apprendre de l'enfant et combien nous devons mettre l'enfant, l'étudiant, l'adolescent au centre du processus de développement et au centre du processus éducatif. Il est vrai que chacun de nous, en tant qu'enseignant ou parent, sait qu'il est nécessaire d'écouter l'enfant. Mais le mettre en pratique, je pense que ce sont des choses qui se passent dans les classes Montessori de façon visible et palpable. L'enseignant qui s'éloigne et qui regarde le processus éducatif qui est en cours sans son intervention, je pense que moi, je n'ai vu cela que dans les classes Montessori. En tant qu'enseignante à l'université, aujourd'hui pour moi, c'est encore une chose très difficile. Le fait de reculer d'un pas afin que l'étudiant soit au centre de son processus éducatif dont il gère lui-même le rythme, c'est une des leçons les plus importantes que nous a laissé Montessori.
Le drame le plus secret de l'humanité, aux conséquences tragiques, réside dans cette étroitesse de vue qui considère l'enfant seulement comme le fils de l'homme, soumis à l'adulte et modelé sur lui. Chaque faute commise sur l'enfant n'est pas seulement préjudiciable à lui-même, mais à ses répercussions lointaines sur la société et sur le progrès de la civilisation.
Je pense que Maria Montessori, elle n'a jamais pensé « c'est fini, j'ai tout donné ». Mais jusqu'à la fin. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que donc elle meurt le 6 mai 1952 en Hollande. Et peu de jours auparavant, Mario avait rencontré une délégation du Ghana qui était venue en Europe pour chercher des soutiens pour reconstruire le Ghana en voie vers l'indépendance. Et la question de l'éducation était très importante. Et donc, Mario Montessori présente leur travail en Inde, mais aussi dans différents pays. Et les Montessori ne se sont jamais rendus personnellement en Afrique. Mais il y a des écoles Montessori en Afrique. Enfin, il y avait des écoles déjà à l'époque Montessori en Afrique grâce aux missionnaires. Et c'est très beau cet échange parce que donc Mario raconte à sa mère qu'il a rencontré cette délégation, qui sont intéressés par la méthode Montessori. Mais tout de suite, il dit, mais tu sais, c'est loin, le voyage. Et elle, elle dit, ah, mais voilà, c'est ça, tu veux y aller tout seul, tu ne veux pas que j'y aille, tu crois que je suis vieille. Si les enfants africains ont besoin de nous, il faut que nous y allions. Et elle cite à Mario une photo où on voit une petite fille africaine qui travaille avec la tour rose.
Certainement, s'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, ce sont bien les enfants des pays africains. Nous n'y sommes jamais allés.
Donc elle dit, non, te souviens-tu des photos que les sœurs blanches du Nigeria nous ont envoyées ? Tu te rappelles la petite fille bouclée ?
Tu te rappelles la petite fille bouclée, occupée à construire la tour rose ? Nous devons y aller. Nous devons, toi et moi, organiser un cours, comme ceux que nous avons tenus en Inde. Et nous devons préparer des assistants sur place.
Donc elle demande à Mario d'aller chercher un atlas pour voir où se trouve exactement le Ghana. Mario va chercher cet atlas et quand il revient, sa maman est morte. Jusqu'à la fin, elle a pensé aux enfants et elle était prête, malgré son âge, malgré sa santé, elle avait des problèmes aux yeux, elle était prête à partir en Afrique. Elle repose en Hollande parce qu'elle avait émis le souhait, elle se considérait vraiment comme une citoyenne du monde. Et elle avait émis le souhait d'être enterrée là où elle allait mourir. Donc elle repose dans le petit cimetière de Noordwijk, près de la mer du Nord, et sur sa tombe, donc il y a une très belle inscription. « Je prie les enfants qui me sont si chers et pour qui tout est possible de s'unir à mon vœu de construire la paix entre les hommes et dans le monde. » Cette phrase a été composée par ses petits-enfants qui ont voulu en fait rassembler les idées qui étaient au cœur de la pensée de Maria Montessori. Et je trouve que ça nous montre combien ce qu'on appelle trop souvent la méthode Montessori, ce n'est qu'une réduction de sa pensée. Parce que la pensée de Maria Montessori, ça va bien au-delà de l'école. C'est vraiment ce qu'elle considère comme une aide pour vivre, non, un aiuto alla vita, en soutenant le développement de chaque enfant.
Avec Martine Gilsoul, Charlotte Poussin, Philippe Mérieux, Anne et les enfants d'une école parisienne, Armelle Perron, Ida, Alexandre Moreau, Erika Moretti, Nadia Hamidi et les enfants de l'école Montessori internationale de Nice. Un grand merci à Martine Gilsoul, à l'AMI, à l'AMF, à Marie-Thérèse Faye, au directeur de l'école parisienne et aux enfants des classes Montessori. Merci au centre de formation Institut supérieur Maria Montessori de Montpellier, et à l'association publique Montessori. Extrait des lettres tirées du livre Maria Montessori, une vie au service de l'enfant de Martine Gilsoul, en collaboration avec Charlotte Poussin. Extrait des lettres de Maria Montessori à ses petits-enfants, lettres d'Inde, 1939-1946, Montessori Pearson Publishing Company, Amsterdam. Extrait du texte Le citoyen oublié, déclaration de Maria Montessori, écrite en Inde en 1947. Lecture Aurélia Petit et Daniel Kenninsberg. Traduction Chaïnez Rasgala. Lecture des traductions Lise Combe. Documentaliste Annie Signoret. Stagiaire Margarita Carlone Minoya. Prise de son Romain Luquiens. Prise de son studio Anthony Thomasson. Mixage Éric Boisset. Chargée de programme Anne-Vanessa Prévost. Coordination Christine Bernard. Responsable éditorial Emmanuel Laurentin. Une grande traversée de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.